Les voraces. On vient surtout cours des voraces pour son escalier de façade typique de l'architecture ouvrière du XIXe siècle. Ouvert sur l'extérieur, l'escalier domine une cour d'immeuble en pierre brute et dessert les coursives des 6 étages. Sa structure en diagonale figure sur tous les prospectus qui le présentent comme le lieu de tournage de nombreux films et la toile artistique de la Fête des Lumières, chaque 8 décembre, quand les meilleurs régisseurs lumière de France se réunissent pour imposer aux Lyonnais leur projection kitsch sur les immeubles de la ville. L'accès à la cour des Voraces se fait par 2 traboules pavées, ces passages étroits emblématiques des constructions lyonnaises qui traversent les bâtiments et servent de raccourci pour aller d'une rue à l'autre. Aux ouvriers, elles offraient un gain de temps précieux, permettant de couper par les usines. Aux résistants, elles servaient à semer l'occupant. Aujourd'hui, la plupart des traboules qui ont creusé leurs galeries dans le bâti historique de la ville sont condamnées. Au milieu du XIXe siècle, la prospérité de Lyon était assurée par l'industrie de la soie, une monoactivité lucrative, gourmande en hommes et pourvoyeuse d'idées nouvelles, dont le cœur se situait sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse. Ces ouvriers avaient un surnom, les canuts. Et s'ils étaient essentiels à l'enrichissement de la bourgeoisie locale, ils étaient aussi considérés comme une classe dangereuse, une communauté vivant dans les exhalaisons de fumée, la puanteur des colorants liquides, le cahotement des métiers à tisser et les hurlements de la marmaille. Les canuts sont entrés dans la mémoire nationale car ils furent parmi les premiers à expérimenter la solidarité ouvrière en créant des mutuelles et en portant des revendications salariales collectives. Dans les années 1840, un groupe de canuts plus radicaux que les autres émergea, les Voraces. Cette société secrète, constituée de chefs d'atelier et de contremaîtres, ne se contentait pas de demander une amélioration des conditions de vie, mais faisait montre d'une ardeur républicaine particulièrement violente, dont les débordements étaient étroitement surveillés par les indiques de la police royale. D'après la mémoire locale, les Voraces semaient la terreur dans les conversations de salon de la bonne société lyonnaise. On disait même qu'ils promettaient de boire à la santé de la République dans le crâne des aristocrates. Les Voraces se taillèrent la réputation de groupuscules à la négociation farouche, à la descente rapide et au coup de poing facile. Quand la monarchie de Juillet s'écroula en 1848, les Voraces, transformés en milices armées, menèrent l'insurrection et prirent l'hôtel de ville, avant de s'en faire déloger par les républicains issus des urnes et de terminer leur courte légende dans un bain de sang. Leur base arrière, pendant l'insurrection, était cette cour d'immeubles sombre, crasseuse et difficile d'accès, enchâssée dans les pentes de la Croix-Rousse. Leur souvenir est inscrit en lettres d'or sur un carré de marbre, posé sur un des murs de la cour, où figure cet étrange message. 1831. Dans la cour des Voraces, ruche du travail de la soie, les canuts luttaient pour leur salaire, leurs conditions de vie et leur dignité. 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame les droits élémentaires de la personne humaine, niveau de vie suffisant, logement, alimentation, santé. 1998. Souvenons-nous. Au cours du siècle qui suivit, l'industrie de la soie périclita et le monde ouvrier disparut peu à peu des pentes de la Croix-Rousse. Mais la réputation d'anarchie et de canaillerie du quartier demeura. Les lointains héritiers des canuts portent aujourd'hui les noms des travailleurs maghrébins que la France fit entrer par milliers après-guerre pour assurer le roulement de ses Trente Glorieuses. Au début des années 60, des milliers de Marocains s'installèrent à Lyon, principalement employés dans l'industrie et les travaux publics. Les pentes de la Croix-Rousse devinrent le point d'ancrage de la communauté, avant que les pouvoirs publics ne parquent tout le monde dans les nouvelles cités dortoirs en banlieue. Cette main-d'œuvre docile et bon marché, venue d'ailleurs, est désormais citée en exemple par les mêmes qui se désolent de la génération qu'elle a engendrée. Le père de Saïd est de cette première cohorte d'hommes seuls, venus pour trimer et surtout pas pour chercher les ennuis. Ce trentenaire débarqué du Maroc s'établit à la Croix-Rousse dans les années 60 et fait venir son épouse du pays, 20 ans plus jeune, qui deviendra aide à domicile. Le couple s'installe dans un immeuble de la cour des Voraces où ils fondent une famille de 4 enfants. Ils vivent modestement parmi d'autres qui partagent avec eux cette même trajectoire. Une histoire d'immigration besogneuse, faite de solidarité, d'accueil des nouveaux venus et de préoccupations quant aux fréquentations des enfants. C'est dans cette cour que grandit Saïd et qu'il traverse l'un des épisodes les plus traumatisants de sa vie. Personne ne sait vraiment ce qui fut à l'origine de la brouille. Là-dessus, les témoignages se contredisent. Certains racontent un banal différent de territoire. D'autres parlent d'un coup de sang lié à une histoire d'honneur qui aurait dérapé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une après-midi de printemps, un an avant que ma mère ne soit tuée rue Romarin, dans le calme d'une rue de Vénissieux, en banlieue lyonnaise, une voiture fait irruption dans un crissement de pneus. Quatre hommes sont à bord. L'un d'eux bondit armé d'un 9 mm et fonce vers un jeune qui marche sur le trottoir. Le ton monte entre eux, et sans qu'on sache trop comment, une balle part dans la cuisse du jeune homme. La cible tente de s'échapper, mais les trois passagers de la voiture hurlent au tireur qu'il faut le finir. Trois balles dans le thorax clouent la victime au sol. Son assassin s'approche, et shooté par l'adrénaline, l'achève d'une balle dans la tête. Abdel, 30 ans, vient d'être assassiné par Walid, son ami d'enfance. L'assassinat de Vénissieux terrorise tout le quartier de la Croix-Rousse, dont la victime est originaire. Il est le dénouement d'une amitié lentement pourrie par le trafic de drogue. L'histoire de deux garçons ayant grandi ensemble sur les pentes dans les années 90 et qui ont été rattrapés par l'argent facile du shit, si facile qu'il brûle les mains et fait perdre les pédales. Au début des années 2000, Abdel, le gamin de la cour des voraces, se met à vendre du cannabis, au point de se retrouver dans le radar des services de police. Il fait ses premiers séjours en prison et en ressort à chaque fois plus respecté des jeunes du quartier. Plusieurs personnes qui l'ont connu le décrivent même comme l'un des plus gros importateurs et distributeurs de shit du secteur. Du gros calibre, du très haut niveau, dit-on encore aujourd'hui. Mais sa réputation de dur n'entame pas le charme qu'il opère sur ceux qu'il croise. Tous décrivent un garçon séduisant, attachant, matois, qui discutait avec tout le monde. En plus, il était bien sapé, dit-on même. L'avocat Alfred Cordier se prend d'affection pour Abdel et bataille pour son compte à chaque fois qu'une nouvelle affaire l'envoie en détention. De ses séjours en prison, Abdel ressort avec un réseau plus développé, la figure de grand du quartier toujours plus affûtée. Dans l'ombre d'Abdel grandit son petit frère, Saïd, qui veut lui ressembler à tout prix, mais dont tout le monde pressent qu'il n'aura jamais le charisme de son aîné. Le grand frère le prend sous son aile, le protège et sort les crocs quand il se fait embêter. De son côté, Walid s'est lui aussi lancé dans la vente lucrative de cannabis sur les pentes, entraînant dans son sillage d'autres adolescents du quartier qui deviennent les petites mains de son business florissant. Avec le temps, l'amitié se fait rivalité. Walid et Abdel s'éloignent peu à peu l'un de l'autre, s'embrouillent. Deux clans se forment, deux territoires se dessinent, les familles prennent position. On raconte que 2 ans avant l'assassinat, sur l'esplanade de la Grande Côte, un belvédère qui offre l'une des plus belles vues de Lyon, Walid avait déjà braqué son semi-automatique sur Abdel, pour l'impressionner suite à une affaire d'argent. Abdel avait été plus rapide que lui, l'avait désarmé et tabassé à coups de crosse devant les mines confondues des gamins du quartier. Une humiliation qui n'a jamais été digérée et dont le solde de tout compte a été réglé dans le sang. Cet après-midi de printemps, en plein Vénissieux. Ce meurtre a tout changé. Les pouvoirs publics, qui avaient déjà pour objectif de reprendre la main sur le quartier des Pentes, décident de le nettoyer pour de bon, en se débarrassant des dealers qui en entachent la réputation. L'enjeu immobilier et économique est trop important. La population commence à se renouveler et il faut absolument assainir en capitalisant sur une montée en gamme des Pentes. Au début des années 2010, la mairie préempte des fonds de commerce et finance leur rénovation. De son côté, la préfecture met la pression au commissariat du premier arrondissement pour sécuriser le quartier. Les nouveaux propriétaires reçoivent toute l'attention du préfet et des réunions publiques sont organisées pour recueillir les doléances de chacun. La gentrification, encouragée par la mairie, s'accompagne d'une surprésence policière et d'une obsession. Les Pentes ne doivent pas devenir un coupe-gorge. Quand trop de jeunes se retrouvent pour jouer au foot dans la rue, des agents du GOM débarquent. Le GOM, c'est le groupe opérationnel mobile, une sorte de BAC municipal mis sur pied pour faire disparaître le sentiment d'insécurité, dont les gamins d'alors devenus grands parlent encore aujourd'hui et qui a le contrôle facile, jambes écartées et mains sur le mur. Un article de Lyon Mag, datant de la semaine précédant la mort de ma mère, détaille cette transformation. La ville de Lyon a fait le point sur l'avancement du réaménagement du bas des pentes de la Croix-Rousse. Le but, redynamiser le quartier et lui enlever son étiquette noctambule en le rendant plus agréable à vivre et plus attractif. La ville a donc mis en place depuis plusieurs mois d'importants moyens pour apaiser le secteur. Des efforts ont pu être faits dans les domaines de la sécurité, de la propreté et des nuisances sonores. Résultat, au premier semestre 2012, la délinquance a baissé de 28%, uniquement dans ces quelques rues. Les 13 caméras de surveillance déjà en place seront bientôt rejointes par 13 nouvelles d'ici un an. Les agents de propreté disposent également de plus de moyens et réalisent plus de tournées pour nettoyer le secteur. Enfin, 15 000 mètres carrés de tags ont été effacés. Le quartier apaisé, la ville de Lyon souhaite maintenant implanter de nombreux commerces pour relancer l'économie de ce secteur longtemps abandonné. En quelques années, le quartier connaît en accéléré le destin de tout centre historique de grande métropole. Le prix de l'immobilier chasse les plus modestes et la commission d'accès au logement devient de plus en plus pointilleuse sur la sélection des profils qui prétendent à un logement social. Une fois les enfants partis, les parents sont déplacés dans des logements plus petits, tandis que d'autres appartements sortent du parc social pour devenir des colocations étudiantes. Le remplacement prend le visage de boutiques éthiques responsables, d'épiceries italiennes deliciosi et de vitrines offrant céramique et fleurs séchées, dont les vendeurs s'inquiètent de savoir si « vous connaissez notre concept ?» sitôt la porte franchie. Sur les panneaux de signalisation, des autocollants labellisent le quartier « zone antiraciste ». Et les affiches anarchistes collées aux façades ocre valident la réputation de la Croix-Rousse comme ce que la conversation publique qualifie de quartier hyper sympa. Les ateliers des canuts deviennent le nouvel amuse-bourgeois, proposé sur les présentoirs suspendus dans les vitrines des agences immobilières, sous la désignation de « superbe loft à l'esprit new-yorkais », élégant et cosy, dans une ancienne usine de métier à tisser, comprenant une somptueuse pièce de vie baignée de lumière grâce à sa grande verrière façon atelier. Sans le savoir, ma mère est l'une des plus emblématiques représentantes de cette transformation des pentes. L'ouverture d'un centre de yoga faisant souvent office de dernier drapeau planté pour consacrer la conquête d'un territoire. Un sociologue qui étudierait la Croix-Rousse pourrait considérer le profil de cette femme de profession libérale reconvertie dans le yoga comme la pointe avancée d'un biotope émergent qui vote écolo, se soucie de son corps, réclame des pistes cyclables et aspire à une vie tout en douceur. Au moment où Abdel est assassiné, ma mère se trouve justement dans son local, où elle finalise les derniers préparatifs avant l'ouverture officielle. Des cartons remplis de flyers mauves viennent d'arriver de l'imprimerie. La grande salle sent encore la peinture fraîche, et elle a commencé à déposer des cartes de visite sur les comptoirs des commerces alentours. Elle est au cœur de ce quartier où naquit l'embrouille entre les deux jeunes de la Croix-Rousse, et pourtant dans un autre monde. Et il est saisissant, en rétrospective, de l'imaginer dans ce cocon de douceur et de méditation qu'elle s'évertue à faire éclore, à l'endroit où la violence n'a jamais complètement cédé ses droits. D'autant qu'au début des années 2010, un autre type de violence se met à secouer les pentes, comme si l'âme brutale des voraces y rôdait encore. Dans la petite chronique lyonnaise, les pentes deviennent le terrain d'affrontements réguliers entre militants de gauche et groupes identitaires d'ultra-droite. Les fachos sont devenus une étrange spécialité lyonnaise dont les maires successifs sont impuissants à démanteler les groupuscules, qui changent d'appellation à chaque fois qu'un des leurs franchit la ligne. Leur bastion se situe dans les rues médiévales du Vieux-Lyon. Ce quartier de carte postale où vivait ma mère, où ils possédaient jusqu'en 2024 un bar identitaire et une salle de boxe, et d'où ils partent chaque mois de décembre, flambeau en main, pour la procession traditionnaliste vers la basilique de Fourvière qui domine la ville. Située sur l'autre rive de la Saône, les pentes de la Croix-Rousse sont la base arrière de leur ennemi juré, les gauchistes, qui tiennent des bars gérés en coopérative, où des étudiants fument des roulés et assistent à des conférences qui appellent à manger les riches et à abolir les frontières. Quelques mois avant l'accident, à trois pâtés de maison de la rue Romarin, un de ces bars fut saccagé par un groupe d'identitaires, dans une nouvelle descente érigée en fait d'armes par le milieu, sans que plus personne ne s'en étonne. L'année suivante, ce sera au tour du local de la libertaire Radio Canu, la plus rebelle des radios, d'être attaquée. les gros bras nationalistes gagneront en confiance et en influence, postant des photos triomphantes sur les réseaux, encagoulés et gainés en polo Fred Perry, parfois le bras tendu. De ces expéditions émergent régulièrement des vidéos filmées par les téléphones des riverains apeurés, glissées dans l'entrebâillement des volets, des barres défoncées à coups de barre, des plaintes et quelques condamnations. Les pentes deviennent un terrain de jeu où les identitaires du vieux Lyon se donnent des frissons en scandant leur slogan « La rue, la France nous appartient » ou « Islam hors d'Europe » avant que « Justice pour Thomas » ne devienne le cri de ralliement de toutes ces bandes, qui trouveront enfin dans la figure de l'adolescent tué d'un coup de couteau à Crépol en novembre 2023 une figure de martyr qu'ils estiment à la hauteur de leur épopée. Les pentes de la Croix-Rousse font ainsi office en ce début de siècle de carrefour des tribus, d'inattendues lignes de front dans les combats culturels qui travaillent le pays, tout en subissant l'irréversible embourgeoisement que les anciens déplorent. Malgré l'érosion de la population ouvrière, que les prix de l'immobilier relèguent vers Villeurbanne et les banlieues de l'Est, la cour des Voraces résiste encore. La plupart des immeubles qui l'abordent sont restés des logements sociaux. À l'entrée de la cour, une petite place en belvédère permet d'apercevoir les Alpes les jours de ciel dégagé. Autour de ce pâté de maisons, les mondes se croisent et s'ignorent dans un pacte de non-agression tacite qui arrange tout le monde. Les touristes, qui se plantent dans la cour des Voraces le nez en l'air, sont observés depuis les fenêtres par les femmes au foyer, en un drôle de chassé-croisé, comme si une cité de banlieue avait été transplantée dans un immeuble historique, créant la confluence d'étudiants en art et de dealers menant leurs affaires dans les traboules d'accès. Dans les étages, flotte souvent la sueur du cannabis. Les boîtes aux lettres sont recouvertes de graffitis et ne portent quasiment que des noms à consonances étrangères. Certaines sont éventrées, d'autres débordent de prospectus. Sur le rectangle de plexiglas qui protège l'ampoule de l'ascenseur des dégradations, un marqueur noir a inscrit bravache, nique la stupe. C'est dans cette cour des Voraces que la famille de Saïd pleura son fils assassiné. C'est dans cette cour que Hamza et Youssef dissimulèrent la KTM 654 endommagée, avant qu'elle ne soit retrouvée par la police au quatrième jour d'enquête. C'est dans cette cour des Voraces que résonnèrent il y a 13 ans les hurlements misérables d'une mère de famille détruite, la voix engorgée de douleur sur son petit dernier. « Pourquoi t'as pris la moto? Pourquoi ?» Et que l'adulte encore enfant répondit « Maman, j'ai pas fait exprès. »